l'invité de Phare FM.
On vient d'apprendre ce matin que le docteur Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, a obtenu le prix Nobel de la paix.
Phare FM vous diffuse donc en exclusivité cet entretien effectué l'année dernière du docteur Mukwege avec Fabien de Phare FM Mons.
Alors docteur, comment est née cette passion pour la gynécologie ?
Ma passion pour la gynécologie est née au cours de déjà ma profession, puisqu'en fait je voulais devenir pédiatre. Et les jours où j'avais constaté dans mon hôpital qu'il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en donnant naissance, j'ai changé de direction et donc j'ai choisi de faire la gynécologie et l'obstétrique.
Toujours ce souci du maintien de la vie.
Absolument, je pense que la vie, spécialement je crois qu'aujourd'hui, l'appel que je fais, c'est cet appel qu'il faut pouvoir protéger la vie des femmes, puisque c'est elles qui donnent en fait la vie à l'humanité.
Alors docteur, on le sait, votre vie n'est pas toujours évidente. Quels sont les nouveaux challenges que vous souhaiteriez encore relever en tant qu'homme qui répare les femmes ?
Aujourd'hui, le défi que je trouve le plus important, c'est de faire tout simplement un débat de société par rapport à la violence faite aux femmes. En fait, nous sommes dans une zone de conflit où les femmes sont ciblées par les bandes armées, mais lorsqu'on analyse encore un peu plus en profondeur, on voit que nos sociétés, qui sont des sociétés machistes et misogynes, sont des sociétés en fait qui n'acceptent pas, on a du mal à accepter l'égalité hommes et femmes, et pourtant Dieu nous a créés à son image, et donc nous sommes égaux et nous devrions l'accepter. Mais le fait qu'on ne l'accepte pas dans la société en paix, lorsqu'il y a un conflit et qu'il n'y a plus ni loi ni foi, les personnes qui payent le plus, ce sont les femmes et les enfants. Et donc le challenge, c'est pouvoir dire s'il faut lutter contre les violences qui sont faites aux femmes en situation de conflit, il faut commencer d'abord à pouvoir lutter contre la violence qui est sous forme latente dans nos sociétés en paix. Et là, c'est n'importe où. Vous allez de New York à Paris, vous allez trouver que la situation des femmes n'est pas brillante malgré les lois des pays et les résolutions internationales qu'on a pour protéger la femme et donc prôner l'égalité hommes et femmes.
Alors on sent votre cœur de porte-parole. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu et suffisamment ou pas ?
Ben, je crois que c'est difficile de faire passer le message, mais le fait que ça soit difficile de passer le message n'enlève en rien l'essence du message. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons absolument comprendre que nous sommes dans une société où les femmes se sont battues pendant 100 ans pour obtenir les droits qu'elles ont aujourd'hui, droit de vote, droit de planning familial, droit du travail, etc. Et je pense qu'il faut que nous, les hommes, au 21e siècle, nous puissions rebondir. Si les femmes se sont battues pendant le 20e siècle, au 21e siècle, le défi serait que les hommes puissent rebondir pour se dire qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai fait pour faire progresser cette notion d'égalité du genre.
Est-ce qu'on peut avoir un mot sur l'hôpital de Panzi, sur sa structure ?
L'hôpital de Panzi, c'est un hôpital qui a été fondé en 1999, en pleine période de guerre en République démocratique du Congo. Et son objectif premier, c'était effectivement lutter contre la mortalité maternelle. Mais malheureusement, en plus de tous les problèmes que les femmes connaissent déjà, en donnant naissance, on a été confronté à un problème grave de violence, avec extrême violence, c'est-à-dire la destruction donc de l'appareil génital de la femme. Et l'hôpital de Panzi, qui est confronté à ces problèmes, aujourd'hui ne traite pas que les victimes de violences sexuelles, mais prend en charge également toutes les autres pathologies. Et donc, à ce titre, nous sommes un hôpital général de référence pour une zone de santé de 300 000 habitants. Mais pour la violence sexuelle, nous prenons en charge plusieurs millions d'habitants.
Alors docteur, j'imagine qu'un jour dans votre tête, il y a eu un déclic face au constat justement de certains organes sexuels abîmés. C'est là où vous vous êtes dit, c'est plus possible de garder le silence ?
En fait, un jour, alors que 8 ans auparavant, j'avais soigné une femme qui était violée, qui était enceinte, et elle avait accouché dans mon hôpital. Et 8 ans après, sa fille qui était née issue du viol et qui était née dans notre hôpital était venue pour le même problème. Là, je m'étais rendu compte que non seulement il y a des femmes que j'ai déjà soignées 2 ou 3 fois, mais également je commence à soigner les enfants nés du viol qui elles-mêmes sont violées. Donc la deuxième, je ne voulais pas attendre, commencer à soigner les petits-enfants des femmes que j'ai soignées pour le viol. Et j'ai pensé que c'était ça le déclic pour amener à ce que je puisse utiliser de mon temps. Aujourd'hui, j'utilise à peu près 75% de mon temps pour opérer, pour soigner les malades à l'hôpital. Et le 25%, je l'utilise pour faire le plaidoyer, parce que je pense que les choses ne peuvent pas changer au bloc opératoire. Il faut absolument s'attaquer aux causes de violences sexuelles. Et là, à l'hôpital, nous soignons que les conséquences.
Alors évidemment, votre action ne plaît pas toujours. Il y a eu un attentat contre vous. Votre vie a été mise en jeu. Elle vous semble vraiment plus importante sur le terrain qu'à l'extérieur. Vous avez fait demi-tour, vous êtes parti resservir là-bas. Une question qui brûle toutes les lèvres, c'est pourquoi est-ce que votre action dérange? Les faits sont là, c'est constaté. Malgré tout, ça dérange une bonne partie des autorités, des milices et des acteurs de terrain.
Et malheureusement, je pense que c'est un constat malheureux. Et pour moi, c'est cette résistance à accepter, en fait, cette évolution qui doit nous amener à ce que les hommes acceptent que d'abord les femmes et les hommes, nous sommes tous égaux. Ça, c'est une évolution qui n'est pas intégrée, à mon avis. La deuxième chose, c'est que ça dérange effectivement les gens qui commettent ces actes, puisque un pays peut ne pas appliquer la loi, mais il y a une loi internationale, donc par exemple par les statuts de Rome, qui consacre le viol dans le conflit comme un crime de guerre, et il peut être considéré également comme un crime contre l'humanité. Et je pense qu'à partir du moment qu'on a un crime contre l'humanité, certainement qu'il faudrait, c'est un crime imprescriptible, et donc un jour il faudrait pouvoir y répondre. Et peut-être le fait d'en parler, ça fait que les gens se posent des questions et qui peuvent se comporter comme ils se comportent à mon égard. Mais ça ne pourra jamais nous amener à arrêter. Je crois que nous avons la certitude qu'il faut plutôt que ce soit la population qui se rende compte que nous avons besoin des uns des autres, que nous avons besoin d'une société égalitaire, nous avons besoin d'une société qui s'organise avec les compétences des uns des autres. Les femmes ont un rôle très important à jouer dans notre humanité, et donc je crois qu'il faut absolument que nous puissions plutôt faire cet effort pour garder ces relations qui doivent être des relations de respect, des relations qui consacrent quand même cette égalité.
Vous êtes protégé par l'ONU, vous découvrez de jour en jour des atrocités, vous parvenez à vivre et survivre là-bas, où puisez-vous votre force ?
Il est évident que sans la protection de l'ONU que nous avons actuellement, il serait très très difficile de pouvoir faire le travail que nous faisons sur terrain. Donc nous apprécions à sa juste valeur la protection que nous bénéficions de la part de la police égyptienne qui fait notre sécurité. Mais notre force provient beaucoup plus, pas du fait que nous avons la protection de l'ONU, mais du fait que les femmes que nous soignons sont des femmes très courageuses. Ce sont des femmes qui ont demandé à assurer elles-mêmes la protection. Ce sont des femmes dès qu'elles passent par ces atrocités, beaucoup d'entre elles deviennent des militantes de droits de l'homme et qui se battent pour le droit de l'homme. Et je crois que ce courage m'impressionne toujours et me pousse d'aller toujours de l'avant.
Alors évidemment, un hôpital comme celui-là demande des fonds. Est-ce que vous avez des besoins aujourd'hui? L'hôpital s'autosuffit, les autorités investissent. D'où viennent les fonds et comment vous aider?
Aujourd'hui, l'hôpital reçoit des fonds qui viennent de l'Union européenne pour la prise en charge médicale et psychologique. Pour les fistules vésico-vaginales, nous avons des fonds qui viennent de l'USAID et de Fistula Foundation. Et pour soigner tous les malades atteints du VIH-Sida, nous avons un support qui vient de Stephen Lewis Foundation. Mais ceci étant, ça c'est la prise en charge médicale. Il y a aussi la réinsertion, puisque nous travaillons sur 4 piliers. Et donc le pilier médico-chirurgical, le pilier psychologique. Nous avons le troisième pilier qui est le pilier socio-économique et qui est très très important puisque finalement lorsque vous soignez les femmes sur le plan physique et psychologique, elles ont besoin d'être réinsérées dans la communauté et la voie de réinsertion c'est de les rendre autonomes. Lorsque les femmes sont autonomes, les réinsertions socio-économiques est beaucoup plus facilitée. Et là, nous avons des besoins sont énormes et enfin, nous avons également le quatrième pilier qui est l'assistance légale. Là également, lorsque les femmes sentent qu'elles ont besoin d'aller en justice, nous leur offrons la possibilité de constituer leur dossier et nous mettons à leur disposition un avocat qui les accompagne devant les cours et tribunaux. Là aussi, les besoins sont énormes puisque le nombre de patientes que nous traitons est très très élevé, donc il faut bien des moyens pour pouvoir les réinsérer dans la communauté.
Alors docteur, lorsqu'on vous regarde, que ce soit dans les médias, les échos, dans la presse écrite même, on vous sent très humble. Vous avez encore des rêves aujourd'hui. Quel est votre rêve aujourd'hui?
Je crois que les rêves que j'ai, c'est d'abord voir dans mon pays les choses changer et que finalement les filles et les garçons peuvent se mettre ensemble et pouvoir résoudre les problèmes qui se posent dans notre communauté, dans notre société, ensemble dans le respect mutuel. Et ça, je crois que c'est un rêve. J'ai des enfants, j'ai des filles, j'ai un garçon. Et il est vrai que moi, quand j'imagine tout simplement les potentiels qu'on peut avoir lorsqu'on donne aux enfants cette chance de grandir dans le respect mutuel, de grandir dans cet esprit de comprendre qu'on est complémentaire et qu'on ne peut pas être compétent en tout, on ne connaît pas tout, mais l'autre peut faire mieux que moi et que je peux progresser seulement lorsque j'essaie d'utiliser les compétences qui sont autour de moi. Or, ces compétences sont parmi les garçons et parmi les filles. Et donc je crois que ça, c'est mon rêve de voir une société qui se construit sur la base égalitaire.
Pour le grand public, lorsqu'on regarde ce problème de viol, on se dit souvent, c'est pour assouvir les pulsions sexuelles des militaires. Je pense qu'on rate la cible en pensant de la sorte, le conflit est ailleurs, docteur.
Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, il faut informer, raison pour laquelle je prends d'ailleurs du temps de discuter avec les médias, puisque je considère que c'est tout à fait à côté, c'est faux de penser que c'est une pulsion sexuelle, puisque les actes qui se posent n'ont rien à voir avec une pulsion sexuelle, ce sont des actes de destruction. Et ce sont des actes qui visent à détruire la vie. Il faut que ça soit absolument compris comme ça. Et je pense que lorsqu'on comprend que ce n'est pas une pulsion sexuelle, que c'est en fait c'est un acte qui est utilisé pour détruire l'autre, et même pas seulement détruire l'autre, mais détruire toute la capacité en fait de se reproduire pour une population. Je crois qu'il faut comprendre que le viol est utilisé plus comme une arme de guerre, une arme de destruction massive. Et à ce titre, je crois que notre mobilisation doit être générale pour pouvoir lutter contre cette arme.
Alors docteur, vous avez reçu des décorations, vous avez reçu aussi différents hommages. Qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est une reconnaissance ou bien un outil pour aller plus loin?
Je pense que je le prends beaucoup plus comme un outil et donc pour moi un prix qui n'aide pas à faire avancer la cause, c'est un prix qui n'a aucun sens puisque je crois que en fait La vraie valeur pour moi d'un prix, c'est un prix qui permet à ce que la cause puisse avancer, qu'il y ait plus de gens qui comprennent le problème et qui mettent la main à la pâte pour résoudre le problème.
Quel est le mot que vous aimeriez laisser aujourd'hui à celles et ceux qui vous écoutent, qui se disent « Tiens, moi j'aimerais être interpellé par l'œuvre du docteur, j'aimerais soutenir, que leur dites-vous ?»
Moi, je dis à tout le monde que nous pouvons, si nous voulons. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un manque de volonté qui m'inquiète par rapport à comment nous regardons la femme. Je pense que ce que nous faisons en public ne correspond pas forcément à notre vie de tous les jours en privé. Et je pense que si nous pouvons faire un effort pour fermer, donc boucher les gaps qui existent entre les lois, les résolutions donc, que nous craignons par rapport à la femme et que ça puisse être une façon de vivre morale et éthique où vous n'avez pas besoin de la loi, vous avez tout simplement, vous intégrez cette dimension égalitaire, je crois que c'est le mot, c'est mon rêve, hein. Je viens de le dire, je l'ai répété, il faut absolument qu'on ne puisse pas vivre selon la loi ou craindre la répression, il faut vivre puisqu'on croit dans ce qu'on fait. Et donc moi je pense que l'égalité ne doit pas être seulement légale, ça doit être une morale éthique aussi.
Vous êtes dans nos terrains, un homme d'action, fils de pasteur, votre frère est aussi pasteur en Belgique. Quel rôle joue votre foi aujourd'hui? On sait que vous êtes clair, vous n'aimez pas tout mélanger, mais on sait aussi que la foi fait partie de votre vie.
Absolument, je pense que la foi fait partie de ma vie et il est vrai aussi que je crains toujours, il ne faut pas mélanger la foi par exemple avec la profession que je fais, mais ma foi m'aide beaucoup dans ce que je fais puisque je crois qu'il y a un principe qui conduit toute ma vie, c'est une réponse pour moi, à toutes les relations qu'on peut avoir avec l'homme qui est en face de vous, l'homme qui travaille avec vous, l'homme qui est votre patron, c'est aime ton prochain comme toi-même. Je pense que ça, c'est une loi qui est en rapport avec ma foi, mais je crois que c'est une loi qui peut être aussi universelle. Tout ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi, que je le fasse pour les autres, ce sont des principes qui viennent de ma foi, et je trouve que peut-être ce sont des principes qui ont une valeur universelle et pas tout simplement par rapport à la foi.